Vous écoutez France Musique.
Changer de disque, Émilie Munera.
Bonjour à tous. En deuxième partie d'émission, la suite de la découverte du coffret en partenariat avec le magazine Diapason consacré à Mozart et puis la découverte d'un opéra de Maurice Emmanuel qu'on a déjà évoqué avec Emmanuel Dupuis jeudi dernier. À 17h30, c'est la chronique de Rodolphe Bruno Boulmier et son oublié du jour. Première demi-heure consacrée à Annie Fischer, donc avec un coffret icône publié par Warner, 8 disques avec du piano seul, des concertos, Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt, Bartok et tout de suite la musique de Robert Schumann. Extrait des Kreisleriana de Robert Schumann, Annie Fischer pour ce coffret où on découvre, redécouvre cette pianiste avec un disque entier qui est consacré aux œuvres pour piano seul de Schumann, le carnaval, les scènes d'enfants, les Kreisleriana et puis le concerto pour piano dirigé par Otto Klemperer. Et pour découvrir cette pianiste hongroise qui est née en juillet 14, véritable enfant prodige puisqu'elle a joué le premier concerto de Beethoven à Budapest à 8 ans et 4 ans plus tard à 12 ans, elle s'offre l'orchestre de la Tonhalle de Zurich pour jouer notamment le concerto de Schumann justement. Et c'est en 1933 que le grand public va la découvrir parce qu'elle va gagner la première édition du concours international Franz Liszt de Budapest. Des enregistrements donc studio ici qui ont été réalisés par le label EMI entre 55 et 66. C'est un leg assez rare, je le disais tout à l'heure avec Marc Dumont, parce qu'elle n'aimait pas du tout le studio. Elle trouvait que jouer sans public, ça n'avait absolument aucun sens. Et elle a commencé ses gravures pour EMI avec le troisième concerto pour piano de Bartok en 55. Igor Markevitch à la base baguette et il se referme avec deux des six concertos pour piano de Mozart qu'elle a confiés au micro du label EMI.
Thank you.
Extrait du 21e concerto pour piano de Mozart avec l'orchestre Philharmonia et Wolfgang Sawallisch. Annie Fischer au piano. Il y a 2 concertos avec Sir Adrian Bolt, 2 avec Sawallisch et 2 avec Ephraim Kurtz. Les derniers, donc, elle est gravée pour le label EMI. 6 concertos qui ont été enregistrés au studio d'Abbey Road à Londres, comme la plupart d'ailleurs des enregistrements de ce coffret. C'était une pianiste qui était extrêmement appréciée de ses confrères, notamment Sviatoslav Richter, qui l'aimait beaucoup. Il disait d'elle: Annie est une artiste d'envergure, animée d'un esprit de grandeur et d'une authentique profondeur. En tout cas, du côté piano seul, on peut illustrer cette phrase avec Beethoven, au programme avec quelques sonates.
Thank you.
Extrait de la 24e sonate pour piano de Beethoven, Annie Fischer pour cette compilation qui sort sous le label Warner dans la très belle série Icône. Et ce n'est pas pour rien que j'ai programmé Annie Fischer à mardi parce que je sais qu'il y a un fanatique absolu dans cette émission de la pianiste. C'est Rodolphe Bruno-Boulmier. Bonjour Rodolphe.
Bonjour Émilie.
Vous aimez Annie Fischer, ça m'étonne pas.
Annie Fischer, j'adore son tempérament, j'adore la personne, j'adore son répertoire, le feu qu'elle a quand elle joue. Et d'ailleurs, si vous avez un jour envie de lire les mémoires, enfin les entretiens de Klemperer, il parle beaucoup d'elle, parce que je pense qu'il était ami avec son mari qui était directeur de théâtre en Hongrie. Et il parle avec des mots très élogieux d'Annie Fischer. Et dans ce coffret, il y a quelque chose avec Klemperer, c'est ça? Vous avez parlé tout à l'heure d'un concerto de Schumann, je crois.
Eh bien, d'un concerto de Liszt qu'on va écouter. Liszt.
Ah, c'est vrai.
Dites donc, vous êtes incroyable, vous, pour les transitions.
Vous vous êtes dit,
on va parler de Klemperer, hop. Et bien, on va l'écouter, justement, effectivement, Annie Fischer. Moi, ce que j'aime, c'est la dextérité qu'elle a. C'est tout de suite limpide, c'est tout de suite clair. Et notamment dans les sonates de Beethoven, elle a gravé l'intégrale de ses sonates. Je trouve que c'est absolument flagrant. Pareil pour le concerto de Liszt, et c'est presque une rareté. On l'avait eu dans le coffret Klemperer, mais c'est un disque qui n'avait jamais été réédité comme une bonne partie de ses enregistrements. Donc là, voici Annie Fischer avec Otto Klemperer.
Thank you.
Extrait du premier concerto pour piano de Franz Liszt par Annie Fischer, l'orchestre Philharmonia et Otto Klemperer. Une petite rareté donc qu'on avait déjà dans le coffret Klemperer et que l'on retrouve ici. Et une pianiste vraiment à découvrir. Je vous disais qu'elle était très aimée de ses confrères, adulée par les autres pianistes. C'était le cas de Richter, comme je vous en ai parlé, mais également de Maurizio Pollini ou alors de Tamás Vasari, qui était un de ses élèves et qui disait qu'elle ne se contentait pas de jouer du piano, elle racontait des histoires au clavier. Ça s'entend vraiment, je pense, notamment dans les concertos. Un coffret d'autant plus important que vraiment le legs discographique d'Annie Fischer n'a pas survécu. Les enregistrements de ce coffret étaient tous épuisés depuis déjà bien des années. Et elle a aussi beaucoup gravé des disques pour le label Ungaroton. Et ils ont également disparu. Même son intégrale, les sonates de Beethoven, n'est plus disponible. Donc vraiment, si vous avez envie de découvrir cette pianiste, c'est vers ce coffret icône qu'il faudra vous engager. On profite donc de son jeu une dernière fois avec son premier enregistrement pour le label EMI. C'est le troisième concerto pour piano de Béla Bartók.
Thank you.
extrait du troisième concerto pour piano de Béla Bartok. C'était Annie Fischer, l'orchestre symphonique de Londres et Igor Markevitch. Le coffret Icône Warner Classic consacré à Annie Fischer. Il y a 8 disques au programme à ne pas rater. C'est exceptionnel, évidemment. 17h30 sur France Musique. Vous avez donc compris que Rodolphe Gounod-Boulmier était à côté de moi et sa grande passion, c'est de trouver des noms connus et des prénoms qui ne vont pas voilà. avec. Nous avons eu tellement de Schumann, tellement de...
De Georg Schumann,
voilà.
On a eu plein de...
De Franck.
De Franck,
Édouard Et cette
Franck.
Fois-ci, un Marx qui n'est
un
pas
Marx
Karl.
Un Marx qui n'est pas Karl, qui est Joseph Marx et un romantique à une époque qui ne l'était plus. C'est d'ailleurs peut-être un peu le drame de tous les compositeurs que je vous présente. On aurait voulu, j'ai l'impression, dans l'histoire de la musique, que le romantisme dure jusqu'à l'éternité. Et malheureusement, ce n'est pas possible parce que quelques Viennois sont passés par là ou sont arrivés. Et ce pauvre Joseph Marx, 1882-1964, a fait comme si ces Viennois n'étaient pas passés par la planète musique. Et il a décidé toute sa vie, avec une autorité incroyable, de composer tonal et de le revendiquer, même dans ses lettres, puisqu'il y a un fonds Joseph Marx qui a toute sa correspondance qui est énorme, et de revendiquer donc cette appartenance à la musique tonale. Ça peut nous faire repenser à quelques discours qui ont eu lieu il y a quelques années au Collège de France, avec certaines personnes qui revendiquent le langage tonal comme étant le seul langage possible.
Vous voulez avoir des problèmes, vous, encore?
Non, mais c'est intéressant de voir que ces questions se posaient déjà
en
1912. Et Joseph Marx avait sa réponse, c'était de rester, quoi qu'il arrive, farouchement tonal. Ceci dit, il écrit une musique très belle, et comme tous ses compositeurs qui sont attachés au passé, eh bien, il aura des grandes fonctions dans l'administration. Il sera directeur de conservatoire, il va écrire dans les journaux. C'était quelqu'un qui avait un poste administratif très important. Un début de jeunesse difficile, puisque ses parents, un peu comme vous, ses parents n'ont pas voulu qu'il fasse de la musique. Donc, il a d'abord fait du droit et de la philosophie.
Laissez monsieur et madame Munera où ils sont.
Vous avez fait de la radio. Mais lui, contrairement à vous, il a persévéré. Et figurez-vous qu'entre 1909 et 1912, il a écrit 120 leaders, ce que vous n'avez pas fait.
Pas encore.
Non.
Mais j'imagine que ça ressemble à Brahms.
Ça ressemble à Brahms,
c'est
ça ressemble
toujours comme ça
à Schumann, c'est vrai.
Oui.
Mais il y a quelque chose. Alors là, le disque qui paraît chez CPO nous fait écouter quelques leaders. Je les passe parce que... Enfin, je les passe pas, justement. Je passe par-dessus parce que Simone Noldo ne chante pas très, très, très bien. En revanche, le Trio Fantaisie, qui dure presque une heure, donc comme ça, ce soir, si vous ne savez pas quoi faire, je vous conseille le Trio Fantaisie, avec ce final qui dure presque un quart d'heure. Et c'est joué par le Hyperion Trio, et figurez-vous que bien, c'est très inspirant. Thank you. Et là, on est parti pour un développement qui va durer très longtemps, Émilie. C'est ça le problème de ces compositeurs qui ont souvent une très belle idée mélodique, qui ont un beau savoir-faire, mais qui développent et qui développent et qui développent et qui développent pour un trio qui dure finalement trois quarts d'heure. Le trio Fantaisie de Joseph Marx. Il y a de belles choses, vous l'entendez, il y a un univers assez personnel. C'est le Hyperion Trio qui joue ceci et ça paraît chez CPO.
Merci beaucoup, Rodolphe Monoboulmier, et le programme du jour d'avant.
Eh bien, on sera autour du festival Manifest avec Franck Madlener, qui viendra nous rendre visite, et puis on parlera un petit peu d'Espagne.
D'accord, aussi. Dont vous revenez.
Voilà,
les chansons.
Et dont nous irons musicalement dans les semaines à venir.
D'accord, dimanche à 17h, on va parler de Maurice Emmanuel, notamment une tragédie lyrique. Emmanuel Dupuis nous en a parlé déjà jeudi dernier, puisque le disque est Diapason d'or. C'est un compositeur français dont on vous a déjà parlé dans cette émission, 1862-1938, qui était professeur d'histoire de la musique au Conservatoire de Paris. Il a eu notamment comme élève Olivier Messiaen ou Henri Dutilleux. Et on avait découvert ses 6 sonatines pour piano grâce à Laurent Vachal. Il me semble d'ailleurs que c'est vous, Rodolphe, qui nous avez passé et qui nous avez fait découvrir ce disque. Un opéra, une tragédie lyrique, cette fois qui sort de l'oubli grâce à une bande de radio inédite. C'était en 1958. Extrait de Salamine de Maurice Emmanuel, tragédie lyrique en 3 actes, Flore Venn, Bernard Demini, Jean Giraudeau, l'orchestre radio-symphonique et les chœurs de la RTF dirigés par Tony Aubin. C'est en 1958, une pièce qui était conçue à l'origine dans l'effervescence de la victoire des Alliés sur les Allemands lors de la Première Guerre mondiale et elle s'inspire de la célèbre bataille de Salamine qui avait opposé en 480 avant notre ère les soldats citoyens d'Athènes, symbole de la défaite d'un empire ennemi face à la démocratie, face aux héros de la liberté. Une œuvre qui a donc été commencée en 1919, créée seulement en 1929. Et la création a été accueillie avec énormément de succès, notamment par Paul Dukas, qui était dans la salle ce soir-là, qui avait vraiment inventé la qualité de cette musique. Et pourtant, c'est un opéra qui va par la suite complètement disparaître, qui ne va absolument pas s'imposer dans le répertoire lyrique français. L'occasion donc de le découvrir sous la baguette de Tony Aubin en 58, un disque qui a donc eu un diapason d'or. Et alors, je ne savais pas, mais j'ai le spécialiste de Tony Aubin à mes côtés.
Mais oui,
revoilà Rodolphe. Et vous faites exprès, vous voulez l'émission, vous ?
Mais non, mais déjà, tout étudiant, j'aimais déjà les oublier. J'ai fait ma maîtrise de musicologie sur Tony Aubin.
D'accord.
Compositeur et chef
d'orchestre. C'était l'interview de Rodolphe Vaudreuil.
Mais voilà, né en 1905 et élève de Paul Dukas.
D'accord, mais dites donc, alors là...
Fascinant personnage.
Il faut avoir des choses à dire pour faire une maîtrise sur Tony Aubin.
Ben on en trouve, puisque personne n'a rien dit, donc on
peut
tout
dire.
C'est
vrai, vous avez raison. On continue avec un pianiste japonais, c'est Masanori Murakami. Extrait du premier Capriccio de Johannes Brahms par Masanori Murakami, le pianiste japonais qu'on découvre ici. C'est une belle découverte et avec un programme en plus qui n'est pas évident puisque suite à ce Capriccio de Brahms, le cœur du programme, ce sont les variations sur une chanson polonaise de Szymanowski et la sonate de Barber, pas forcément le plus évident et pas non plus la plus enregistrée. Belle réussite. C'est un pianiste que vous avez peut-être entendu l'année dernière lors du Festival des grands amateurs de piano au Châtelet. Il y a d'ailleurs la nouvelle édition qui se déroule en ce moment, aujourd'hui même. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de concours pour les grands amateurs et le Châtelet leur donne l'occasion de se produire, les lauréats de ces concours, de se produire en concert. Et cette édition 2014 est placée sous le parrainage de François-René Duchâble qui a déjà donné une masterclass et qui donnera différents concerts. C'est un festival qui a débuté aujourd'hui, qui s'achèvera dimanche et vous avez tous les détails sur notre site internet. Comme hier, on finit avec notre partenariat, la discothèque idéale de Diapason. Premier volume, la musique de chambre de Mozart. On était hier avec les sonates pour violon et piano et les trios. Place au quatuor cette fois avec ses magnifiques dissonances. Extrait du 19e quatuor à cordes de Mozart par le quatuor Julliard. Il y a également le quatuor Madeus qui se partage ces quatuors de Mozart. La discothèque idéale de Diapason, premier volume, musique de chambre, ce sera à gagner jeudi dans cette émission. Merci à l'équipe du jour, Cécile Gissot, Paul Simonetti, Antoine Giraud, Flora Sternadel et Antoine Courtin.